ma vie. Mais toi, mon froid, ma pluie, mon cœur d'ici, mon vent, mon gris.
Je regardais dans la salle les uns et les autres. Et j'ai vu des expressions très émues, mais j'ai vu aussi des gens qui parlaient la chanson en même temps qu'Alain la chantait. Et ça me rappelle cette anecdote là qui me revient à l'instant à l'esprit. Quand Alain était venu avec Francesca pour les deux spectacles qu'il y avait eu au théâtre des Eaux du Robec, c'est ça ? Déco du Robec, oui. Alain était à ce moment-là très, 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 très fatigué. Il sortait de chimio. Il n'était vraiment pas bien. Et il avait des trous de mémoire. Et c'était extraordinaire d'entendre la salle qui lui soufflait les textes. La salle qui chantait le temps qu'il récupère le fil. Et ça prouve à quel point Alain faisait partie de leur vie et à quel point ces textes les avaient marqués profondément.
Alors, pour poursuivre un petit peu après cette chanson Rouen, sur une musique, on me l'a fait remarquer à l'instant, de Kent, évidemment, on ne peut pas non plus parler, ne pas parler de Mont-Saint-Aignan près de Rouen. Alors, nous devions recevoir une autre adjointe à la culture, Nathalie Maine, bon, qui a dû être retenue. Le fait est qu'elle n'y est pas. Évidemment, elle aurait peut-être eu quelques petites choses à nous dire aussi sur le travail quand même, parce que je sais qu'elle avait des volontés au niveau municipal. Mais bon, je n'en dirai pas plus, évidemment. Et puis, je voudrais revenir un petit peu sur Rouen et sur un lieu à Rouen, parce qu'évoquer les compagnons de route, les amis de Le Prest, ben ce ne serait pas tout à fait complet si on ne mentionnait pas une de ces très rares salles rouennaises qu'il a reçues, un homme et un lieu, bien sûr, il s'agissait de Michel Adjinsoff et du Bateau Ivre. Depuis les années 70, alors Michel n'est pas encore là, il devait venir aussi, mais je sais que ce soir il bosse et il a du boulot à faire, c'est peut-être pour ça qu'il n'y est pas, on essaiera d'en dire un petit peu quand même. Donc depuis les années 70, je crois que ce sont les années 70, mais Didier nous précisera ça tout à l'heure, Le Prest fréquentait le bateau et la table du propriétaire. Une amitié assez longue d'ailleurs unie Alain et Michel, qui je crois même est parrain de Fantine. Et si je me permets de pointer du doigt ce lieu, je l'avais déjà dit une fois, mais on ne le dit pas assez, c'est sûrement parce que dans l'aglo, ce rafio, c'est comme ça que je l'ai écrit, contre vents et marées, et depuis plus de 35 ans, fait vraiment office d'un véritable tremplin. Modeste tremplin, mais dont la programmation ferait quand même rougir bon nombre de programmateurs. Et plus encore, je pense sincèrement que la scène rouennaise, avec le travail qu'il a mené, ne serait pas tout à fait la même, encore une fois, sans le travail qu'a mené à Rouen et qui a amené à ce que d'autres s'y collent. Et pour ma part, je sais qu'Alain, Michel, fait partie de ceux qui ont fait qu'un jour je me suis tenté aussi dans cette initiative en ouvrant le café de l'époque. Alors, je reviens maintenant à Alain. Didier, puisque je me permettrais de te demander à toi, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'ont été ces premières années de Le Prest à Rouen ? Vous étiez quand même différents petits camarades ensemble. Alors, si je cite Étienne Goupil, Plaquevent, Gipoulou, Stéphane Riault, Bertrand peut-être un peu plus tard, vous étiez quand même toute une bande à avoir usé les tables du bateau ivre.
Les tables, la scène et le bar, bien sûr, puisque l'excellent punch fait par Michel Adjinsoff lui-même, oui, le bateau ivre, lieu culte pour les chanteurs de la région, pour les groupes de la région, lieu culte qui en a vu récemment Laurence Tison, un petit peu de toutes les couleurs, par la ville de Rouen, excusez-moi, je suis obligé d'en parler parce que je suis un type franc et honnête, qui n'a pas facilité la chose au bateau ivre. Mais par contre, ce n'est pas pour autant que je ne salue pas les initiatives que vous pouvez prendre, ce que je viens d'entendre aujourd'hui. Mais ceci dit, n'oublions pas les choses vivantes, le bateau ivre, le théâtre du Petit Ouest, n'oublions pas les gens qui sont discrets, qui ne sont pas les rois de la com, comme on dit, les rois de la com, mais qui sont extrêmement présents, qui amènent eux-mêmes les rouleaux de papier toilette dans leur théâtre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose d'important. Bon, c'est une parenthèse, mais simplement, tenez en compte, vraiment, c'est quelque chose d'important. Excusez-moi, c'est un terrain que j'ai voulu aborder légèrement, mais ceci dit, voilà. Je reconnais bien votre travail de toute façon. Mais bon, faut pas se tromper d'ennemi. En ce qui concerne, oui, lieu culte, le bateau ivre, lieu culte parce que effectivement, les gens qui passaient à Gorki, leur première scène, c'était quasiment le bateau ivre systématique derrière. On allait à la grande scène extérieure à Gorki, mais on allait au bateau ivre, on était reçus dans Rouen. Et non pas simplement à Petit-Quevilly, bien que Petit-Quevilly était à ce moment-là le théâtre Maxime Gorki extrêmement reconnu avec une programmation de chansons, de gens extraordinaires, de Maxime Le Forestier, Jean-Guy Denis, enfin j'en passe. Et puis les fêtes de Petit-Quevilly aussi, où Francesca, tu chantais aussi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
A été donné à Petit-Quevilly.
Oui. Donc voilà, Michel Azintsov, c'est quelqu'un qui a été depuis les années fin 76, un lieu extrêmement important et qui continue à l'être. Bon, la fatigue se refait sentir sûrement chez Michel, mais en même temps, il a toujours gardé cette envie de nouvelles programmations, même si c'est plus trop les nôtres et qu'on a toujours une certaine nostalgie d'une certaine époque. Mais vraiment, c'était un lieu extraordinaire de rencontres, d'amitié, des après-minuit, en l'occurrence, notamment. Voilà. Que dire de plus que, bah oui, il y a eu Hervé Boutard, il y a eu Arnaud, il y a eu Arnaud Fouquet, il y a eu Alain Leprest qui passait régulièrement, moi-même qui passais régulièrement avec Elisabeth Absalem et Bertrand Lemarchand. On y est passé plusieurs fois. On avait avec Yves-Marie, bien sûr, Yves-Marie qui nous accompagnait à l'époque, Yves-Marie Daniel. Voilà, que dire, ce sont des grands sentiments. L'époque de Michel Azintsov, c'est des grandes nuits, c'est à refaire le monde, à écouter les nouveaux titres, etc., etc. Donc c'est des soirées musique, des soirées chansons, des soirées avec Higelin, des soirées avec je me rappelle aussi la sortie de Knobel Peace avec Guy Bedos qui était venu au bateau Yves pour l'occasion, enfin bon, plein de choses comme ça, voilà. Mais bon, des lieux magiques, quoi. Des lieux magiques, comme peut l'être aujourd'hui ce lieu que tu as réussi à reprendre avec brio, Mako. Voilà.
Moi, je me demandais là, au point où on en est, y aurait-il dans la salle quelqu'un qui pourrait nous parler de cet objet absolument délirant, non identifiable et jouissif, qui était le gardien du phare?
Alors, oui, on ne savait pas.
Est-ce que quelqu'un peut en dire un mot? Parce que quand même, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Ce Jean-Luc Guillotin n'est pas là. Bon, il a donc certainement...
Excuse-moi. Non, mais je l'ai vu deux fois. Et Jean-Luc était... La deuxième fois où je l'ai vu, c'était à Entraigues, sur la place d'Entraigues. Il y a une grande fontaine avec de l'eau, hein. Et alors ils avaient tendu un fil et bon, et il passait au-dessus. Il avait tellement bu, Jean-Luc, qu'à un certain moment, il est tombé dans l'eau avec le micro. Et à l'époque, bon, Sally, c'était Sally qui s'occupait des micros, etc., était désespérée dans le bistrot parce qu'il est tombé dans le... Et le micro, il était foutu, quoi. Alors, c'est un drame quand on a un objet comme ça qui se casse parce que ça coûte cher. Et que, voilà, c'est idiot ce que je dis parce que c'est juste un événement que j'étais morte de rire, mais en même temps, je voyais la pauvre Sally désespérée et Jean-Luc qui continuait, il a continué. Mais sans micro, en hurlant, c'était magnifique, c'était formidable son spectacle. Je ne sais pas s'il le refait ou pas.
Oui, alors il le refait régulièrement, notamment le dernier, il l'a fait au Petit Ouest. Hein, il l'a fait au Petit Ouest. Ah, mais il peut le faire dans les appartements. Il le fait sous différentes formes. Il l'a fait ici. Il l'a fait au bateau ivre sous un décor différent, avec une toile de parachute. Il l'a fait avec avec des pigeons, etc. Bon, il avait, oh là là, suivant les salles et la possibilité de. Il a inventé le décor adapté à chaque lieu. Hein. Oui, ça c'est sûr. Et ça a été écrit pour lui. Hein, Alain m'a toujours dit, c'est le gardien du phare. C'est le gardien du phare. Ah oui, 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 tout à fait. Et c'est un spectacle d'une écriture sublime. C'est un monologue, hein, un monologue qui dure une heure et demie et sur un rythme infernal. C'est quelque chose de très très beau. Le gardien du phare, je le fais que vous le conseillez, peu importe le lieu, il peut même se jouer en appartement, voyez-vous. Donc voilà, pour info. Jean-Luc Guillotin, hein, pour info. Voilà.
Et pour continuer sur le gardien du phare, je disais tout à l'heure que Alain avait fait un petit peu l'éducateur à Petit Quevilly et au CAPS notamment. Enfin. Précisément. Et au CAPS, il y avait donc des jeunes un peu paumés qui venaient là régulièrement. Et un jour, Jean-Luc est venu avec Manuel Gipoulou en disant au responsable du groupe, il nous faut un bateau, il nous faut une mare, il nous faut, etc. Et les jeunes, beau symbole de partenariat, ces jeunes qui étaient complètement paumés, qui c'était pas tellement leur préoccupation, ont participé à la construction, à l'élaboration de ces décors qui ont été transportés sur le comment ça s'appelle, tout sur un toit, là, des voitures, le porte-bagages, La galerie d'un vieux trafic, et avec un gars debout à chaque portière pour éviter que les décors ne fichent le camp.
Bien. On embraye sur un disque. C'est vrai que la salle, on avait vraiment, je le répète encore une fois, mis en place cette émission et nous espérions évidemment des interventions de la salle, un peu comme celle qu'a fait Claudie. Alors, depuis 15 jours, enfin, ça fait maintenant même un mois pratiquement qu'on sait que nous ferons cette émission, et beaucoup de gens sont venus nous voir en nous disant moi je me souviens, il y a ceci, il y a cela. Et c'est vrai qu'on avait donné une grande place à votre parole pendant cette émission, et peut-être que l'émotion est forte, peut-être que c'est plus compliqué que ça pour prendre la parole, pour rappeler son Alain qu'on connaissait pas. Plein de gens nous ont dit des choses, des gens nous ont écrit aussi de très très beaux textes, et aujourd'hui c'est plus difficile, me semble-t-il. Moi, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de Barjac, et j'aurais voulu y revenir un petit peu, puisque ce festival auquel je ne suis jamais allé, et j'ai eu tort, bien évidemment que j'ai eu tort, mais on a de la chance puisque ces beaux interprètes, auteurs viennent ici. Alors voilà. Mais qu'est-ce qui fait que il a une renommée nationale extrêmement important. Qu'est-ce qui fait ? Alors, c'est pas seulement Ferrat, c'est pas seulement Solville, c'est pas seulement fond de tout ça.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a une action de la mairie qui est formidable. La municipalité s'occupe bien de son festival. C'est elle qui l'a créé avec Jean Vasca. Et il y a une cour de château magnifique. Et quand il y a des lieux qui sont prêts à recevoir du théâtre, ou même, heureusement, là, c'est surtout des chanteurs. Parce que pour la chanson, il n'y a plus grand-chose. Et là, c'est une chance extraordinaire, parce que si vous allez à Barjac, vous verrez cette cour de château. Le soir, on est tous ensemble assis à écouter des chanteurs formidables qu'on aime beaucoup, et on se retrouve après pour boire un coup, et toute la ville fait quelque chose. Alors il y a dans des caves, il y a des lieux où aussi on projette des courts-métrages, il y a des cafés où on chante, mais pendant trois jours ou quatre jours maintenant, je crois bien, il y a une activité, enfin c'est formidable quoi, on passe sa journée à entendre des gens dans les rues, aller les voir dans des endroits secrets un peu, et puis le soir il y a deux chanteurs magnifiques qui sont sur la scène, et j'y ai vu des Jean Guidoni, des gens extraordinaires, enfin c'est un bonheur d'être là, parce que le fond de la scène c'est de la pierre, il y a pas, on dirait qu'il y a pas de décor, on est dans la, en même temps dans la création de architecturale, je sais pas comment dire, mais on est ensemble et on aime la même chose. J'ai vu des gens se prendre des pelles épouvantables parce que ça plaisait pas au public, la chanteuse était trop coquette, et que j'en ai vu une qui se frottait un peu la tête, enfin moi je me frotte tout le temps la tête, mais c'était pas moi, hein. mais et qui disait, oh, vous voulez peut-être que je vous dise le nom de mon coiffeur? Et il y a quelqu'un qui a dit, on s'en fout, dans la salle. Quelquefois, il suffit d'une personne qui foute par terre un récital entier. Hein, je vous le dis, parce que faites attention à ce que vous dites, ce que vous faites. Voilà, mon Mébarjac, moi, ils ont fêté mes 50 ans de chansons l'année dernière. Et il y avait Alain, bien sûr, et Anne Sylvestre, et tous les copains qui viennent, qui sont venus ici aussi, sans doute. Rémo Gary, je ne sais pas, Bernard Joyet, bon, enfin... Bon, bref, ça a été une soirée magnifique.
Bon. C'est vrai que si nous, on ne peut pas se rendre à Barjac, le festival a lieu au mois de juillet.
Août, oui, c'est juillet,
c'est bien
juillet.
Ça. Donc c'est maintenant l'année prochaine, mais encore une fois, je le disais, on a la chance que ces interprètes viennent à Rouen. Et d'ailleurs, ce serait bien Paris Chopin.
Même les jours de quand ça pleut, le ciel allumait des feux bleus dans nos trop jeunes cheveux gris. Quand Chopin habitait Paris, Richard Wagner jouait aux billes, piquant un fiacre à la Bastille, on s'envolait jusqu'à Pantin. Quand Paris habitait Chopin, la commune prenait son temps. Si Paris avait mal aux dents, fête soignait ses caries. Quand Chopin habitait Paris, Rabolio courait la Sologne, on jouait du violon en Pologne, le pain coûtait une bouchée de pain. Quand Paris habitait Chopin, des pianos flottaient sur la Seine, entre ces deux rives obscènes, ouvertes sur le pont Marie. Quand Chopin habitait Paris, l'Amérique ruait vers l'or, Rimbaud était pas déjà mort, Cézanne n'avait pas encore peint. Quand Paris habitait Chopin, la banlieue était en jachère, si les étoiles valaient pas cher, la Chopin n'avait pas de prix. Quand Chopin habitait Paris, les femmes fumaient le cigare, des locaux piaffaient dans les gares, mais on flânait clopin clopin. Quand Paris habitait Chopin, Garibaldi comme un Cheyenne recousait la botte italienne, barbe au vent sur son cheval gris. Quand Chopin habitait Paris, l'arsenal des jeux à le jazz, on cherchait sous les becs de gaz les lumières de Charlie Chaplin. Quand Paris habitait Chopin, c'était tout droit d'asile en France, c'était un temps. N'avait pas dit son premier cri. Quand Chopin habitait Paris, la mort jouait en virtuose ses accords de tuberculose sur le poumon des musiciens. Quand Paris habitait Chopin, quand Paris habitait Chopin.
Et naturellement, cette actualité ô combien actuelle de Francesca, puisqu'elle nous a fait le bonheur de chanter en live, comme on dit, ou comme on ne devrait pas dire, sur son disque, nous conduit à parler de son autre actualité, Michel.
Alors, l'actualité, les auteurs. Alors, c'est vrai que le Presse, Solville, on est toujours. On n'est jamais loin. Il y a toujours quelque chose qui, depuis très longtemps, qui vous lie. Et j'ai lu un petit quelque chose à propos d'un enregistrement, d'un nouveau CD, de quelque chose qui devrait exister, qu'on devrait retrouver sur nos CD, sur nos lecteurs de CD dans pas trop de temps. Je te laisse en parler, puis après ça, je reviendrai dessus. Sur le pourquoi du comment.
Non, mais j'ai 20 chansons, mais Alain m'en a écrit 4, là, dernièrement, ces derniers mois, quoi. Et voilà. Et puis, j'avais préparé un disque, parce que tout le monde m'écrit des chansons, j'ai énormément de chance. Tous les autres, ceux que je vous ai déjà nommés tout à l'heure, qui sont mes amis, Gilbert Lafaille, Anne Sylvestre, Rémo, Gary, des auteurs que, comme je les aime et comme Alain les aimait, et avec qui on se retrouvait quelquefois, comme à Barjac, où on était heureux d'être dans une famille unie et honnête. Parce que ce qui est frappant dans cette famille-là, c'est que personne n'essaie d'avoir envie de réussir ou d'avoir des idées un peu comme ça. On va son chemin et on s'en écarte pas. Et peut-être on se trompe de chemin, mais enfin on va jusqu'au bout. Et puis on emmerde les autres. Voilà. Alors c'est bien ce que je pense que cette famille, c'est une famille inouïe. Moi j'ai vu mourir tellement de mes amis mais elle est vivante encore. Elle continue et il y a encore des tas de jeunes qui font des chansons, des belles chansons. Il faut pas désespérer. De l'état dans lequel on est, quoique on devrait aller égorger tout le monde là. Bon.
Enfin. Alors évidemment, alors ça c'est pas à toi d'en parler. De toute façon, ce genre de choses c'est forcément pas à toi. Non. Alors c'est vrai que j'avais écrit un petit quelque chose, mais c'est plus facile quand c'est Francesca qui nous en fait part. Cet album donc, qui devrait normalement voir le jour courant janvier.
Oui,
janvier-février 2012. Oui. Il y a différentes manières pour le faire en sorte justement qu'on le retrouve dans nos bacs. Et il y a le système de la souscription que tu avais déjà utilisé, oui. Dirais-je, pour un précédent album.
Ça fait
album,
longtemps, oui.
Un précédent album.
Oui. Le précédent, là, donnez-moi la phrase.
Voilà.
Oui.
Alors,
Alain, oui, d'ailleurs.
Simplement pour dire que ce CD qui n'est pas préparé mais est quasiment déjà en vente, vous voyez, et bah oui, il est en vente aujourd'hui, ici même. Vous n'avez pas le disque, mais vous avez l'intérieure prête, dites. Donc, ce qu'on vous... La proposition qui était faite sur cette souscription, c'est qu'effectivement, on peut, dès aujourd'hui, en envoyant un chèque et on pourra vous donner l'adresse, eh bien, ça s'assurer de récupérer cet album dès le mois de janvier. Et puis ici, on mettra nous aussi en place une boîte, quelque chose, pour que cette souscription ait lieu, puisse se faire. Alors. À l'heure qu'il est, on va d'ailleurs faire très vite, nous pensions être dans les temps, mais je crois qu'avant tout, Elisabeth voulait dire deux mots.
C'était juste ce que tu viens de dire, Michel. C'était pour dire que j'ai eu la chance d'aller à la fête de l'Huma il y a 15 jours, que j'étais à côté de Francesca pendant plus d'une heure, et qu'il faut absolument s'aimer du vivant et absolument participer au disque de Francesca et faire qu'il sorte très très vite.
Ah, merci.
Il est quoi là maintenant? Il est 16h55 et donc on a l'antenne jusqu'à 17h. 17h, donc 5 minutes, Stéphane. Allez, Stéphane Emmanuel Reynaud de Fit 5 minutes.
Je vole son micro à Francesca pour 5 minutes. On est un peu court, alors je ne vous livrerai pas ma chronique en fait ce soir, voilà, tant pis. Juste pour vous dire qu'on se retrouve, avant de conclure cette émission, on se retrouve le samedi 29 octobre pour la prochaine édition des débats d'époque, de 15 à 17 heures toujours, autour cette fois de Brassens. Et puis ensuite, tous les samedis du mois, donc le 29 octobre, dernier samedi d'octobre, et puis à nouveau tous les samedis du mois au Café de l'Époque, ici, 43 rue Armand Carrel à Rouen, avec Rebecca Armstrong qui est parmi nous ce soir. Coucou Rebecca. Avec Elvire Le Cossec, avec bien sûr Michel, Mireille, les filles de l'association Drôle d'Époque, j'en oublie sans doute. Je serai présent au rendez-vous également. Et avec le concours toujours de Radio HDR. Et on remercie d'ailleurs Vincent qui a assuré la technique ce soir et Manu et Nico qui étaient présents pour l'installation. Voilà.
J'aimerais que ça cesse de se dégrader dans un BNF. SDF, ce qui me blesse, c'est d'être soldé pour pas baiser. SDF, j'ai pas d'adresse, rien à garder, j'ai pas le téléphone. SDF, rien dans la caisse, rien à fonder, j'ai pas de sous-chef. SDF, on me rabaisse, qui veut me céder en bas-relief. SDF, la politesse, rien à glander, je dis ça en bref. Même la comtesse ne m'en gardait aucun grief. SDF, j'ai trop de paresse pour musarder dans votre fief. SDF, chacun sa messe et ses idées, chacun sa nef. SDF. Sickness et Jésus des Marie-Joseph. SDF, pour qu'on se redresse, c'est le verbe aider qu'il faut qu'on se greffe. SDF, allez, je vous laisse, je vais jouer au dé chez le père Youssef. SDF, allez, je vous laisse chez le père Youssef. SDF, allez, je vous laisse, je vais jouer au dé chez le père Youssef.
Bien, bah écoutez, notre première émission Débat d'époque, qui était un petit peu spéciale, se termine. Merci à vous tous. D'autres devaient, sont pas venus. Je sais qu'ils sont pas bien loin. Et puis encore une fois, je dédie cette émission, mais je suis pas seul, et on dédiera toutes nos émissions à notre ami Yves-Marie Desmiel et bien sûr à Alain. Il s'agissait de lui, mais à Yves-Marie Desmiel qui est avec nous et sans qui cette émission n'aurait jamais eu lieu. Merci à vous.
Radio HBO.